matin.
Et le monde vu par ce samedi matin, Régis Le Sommier de Paris Match qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et pour commencer, François Clémenceau du Journal du Dimanche. François, bonjour.
Bonjour Bernard.
Avec vous François, ce matin nous parlons du concours de l'Eurovision, et qui va se dérouler la semaine prochaine à Tel Aviv en Israël. Et comme souvent, depuis sa création, cette compétition de chansons est aussi une bataille diplomatique et stratégique.
Oui, c'est ce qu'on a l'habitude de dire à juste titre d'ailleurs à propos des grands événements internationaux à forte résonance médiatique comme les Jeux Olympiques par exemple ou la Coupe du Monde de football. Mais depuis que l'Eurovision est devenue une compétition quasiment mondial, alors que c'était au départ un concours de chansons entre Européens, les organisateurs doivent s'improviser maintenant en diplomates et les pays participants en stratèges. Exemple, avec l'édition de cette année en Israël, où vous aurez noté la coïncidence des attaques du Hamas et des représailles sévères d'Israël sur Gaza, alors qu'on était en plein préparatif du concours à Tel Aviv, dont la finale est prévue samedi prochain.
Vous voulez dire que les Palestiniens et les Israéliens se sont tapés dessus la semaine dernière pour attaquer ou pour défendre l'Eurovision ?
Alors, pas directement évidemment en termes de cibles militaires, mais depuis que le concours a été déplacé de Jérusalem, où il devait avoir lieu initialement, vers Tel Aviv, c'est sûr que de viser Tel Aviv était très tentant pour les factions armées palestiniennes de Gaza et que les autorités israéliennes ont vraiment eu peur qu'une escalade du conflit oblige à annuler le concours, tout simplement pour protéger les participants. Benjamin Netanyahou était en train également de négocier sa coalition gouvernementale avec des partenaires, vous le savez, encore plus durs que lui, et il devait donc prouver qu'il était capable de garder la main dans cette phase sécuritaire. L'Eurovision, manifestation censée être pacifique par excellence, a été l'otage invisible de cette mini-guerre.
Et pourtant, François, on ne peut pas dire que l'Eurovision est un paradis pour bisounours.
Non, c'est vrai que depuis sa création il y a 64 ans, l'élargissement géographique et politique de l'Eurovision, via le Conseil de l'Europe, puis les voisins de la Méditerranée, devait tôt ou tard atteindre des zones de conflit. Dès les années 70, les Scandinaves protestent par exemple contre la participation de l'Espagne et du Portugal qui sont encore sous dictature. Puis c'est la Grèce et la Turquie qui boycottent à tour de rôle la compétition après l'invasion de Chypre par les Turcs. Ensuite, ce sont les pays du Maghreb qui refusent de diffuser les chansons ou les victoires d'Israël. Après, dans les années 2000, la Géorgie se retire de la course après avoir été envahie par la Russie et l'avoir dénoncée dans la chanson géorgienne du concours.
Oui.
Et puis en 2014, après la révolution de Maïdan à Kiev, lorsque les candidates de la Russie sont huées par le public, et en 2017, lorsque l'Ukraine interdit à la chanteuse russe de concourir parce qu'elle s'est produite sur une scène de Crimée. Vous le voyez, l'Eurovision, c'est une caisse de résonance mondiale, un outil de soft power incontestable, même si les puissances qui s'en servent aujourd'hui de façon grossière et ancienne, avec menaces et censure, feraient mieux d'utiliser plus intelligemment la force subversive de l'exemple et de l'ouverture.